Chapitre 9. Plan de conduite. Frank Ross était un jeune homme méthodique, ses ennemis l'auraient presque qualifié de pointilleux, et il aimait à mettre de la règle et de l'ordre dans toute son existence. C'était un de ses traits caractéristiques. Mais comment agir en présence de cette vie nouvelle où il entrait? Il fallait être deux pour en tracer les règles. Le petit esquif à deux rameurs, qui doit gagner le large, est obligé de se prescrire un itinéraire, chacun d'eux à sa ligne propre, et tout autour d'eux, à mesure qu'ils avancent, ils voient les pièces de charpente et les quilles brisées d'autres petits canots qui partirent jadis, pleins d'espoir et de confiance. Il y a des courants et des tourbillons, des bas-fonds de sable, des récifs que l'eau couvre. Heureux les équipages qui les voient à leur avant et règlent leur course de manière à les éviter. Frank rumina sur tout cela. Il avait quelque peu vu la vie à son âge. Il avait observé ses amis qui étaient heureux, il avait observé ses amis qui ne l'étaient pas. Et maintenant, pour donner une conclusion à ses sages réflexions, il s'assit devant une table, l'air solennel, en face d'une feuille de papier de grand format. « Maintenant, Maud, dit-il, j'ai l'intention de causer sérieusement. » Maud leva les yeux, toute surprise, du linge qu'elle était occupée à marquer. « Ah, mon Dieu » s'écria-t-elle. « Pourquoi, ah, mon Dieu ? Y a-t-il quelque chose qui vous déplaise ? Y a-t-il quelque chose qui vous déplaise ? Rien au monde. » Vous avez l'air si solennel, Frank. Je me suis figuré que vous regardiez les comptes du fournisseur. Qu'y a-t-il, mon chéri? Eh bien, Maud, j'ai réfléchi à la vie conjugale en général. Ne pensez-vous pas que nous ferions une bonne chose si nous prenions certaines résolutions sur la manière de nous y conduire, quelques principes fondamentaux, pour ainsi dire? Oh, mon chéri, oui, faites-le. Comme cela sera drôle. « Mais c'est sérieux, Maud. »« Oui, mon chéri, je suis tout à fait sérieuse. » Il m'a paru que si nous pouvions nous conformer à certaines règles, dès lors, quoi qu'il pût nous arriver, nous saurions toujours ce que nous aurions à faire. « Quelles sont-elles, ces règles, mon chéri ?»« Eh bien, nous n'arriverons à les fixer qu'en en causant entre nous. Il m'était impossible d'établir une suite de règles, puis de vous demander de vous y soumettre. » Ce n'est point ainsi que je me figure une association. Mais si nous arrivions à constater que nous sommes d'accord sur certains points, nous pourrions les adopter par consentement mutuel. Comme c'est charmant, Frank! Je vous en prie, parlez-moi de quelques-uns de ces points. J'en ai plusieurs en tête et j'aimerais que vous me disiez ce que vous pouvez avoir, toutes les idées, vous savez, qui sont propres à rendre notre existence la plus haute, la meilleure possible. Tout d'abord, il y a le chapitre des querelles. Oh, Frank, c'est horrible! Ma petite chérie, nous devons envisager l'avenir. Nous avons toute une existence à passer ensemble. Il faut prévoir tous les hasards de la vie et nous y préparer. Mais c'est absurde! Il est impossible que vous passiez toute votre vie sans avoir un moment de mauvaise humeur. Mais pas avec vous, Frank! Oh, à certains moments, je puis être très énervant. Maintenant, voilà mon idée. La mauvaise humeur se passe et cela ne fait de mal à personne. Mais si deux personnes sont de mauvaise humeur, elles s'excitent l'une l'autre et elles en disent plus qu'elles ne le veulent. Convenons que nous ne serons jamais de mauvaise humeur en même temps. Si c'est vous qui êtes maussade, c'est votre tour et je n'ai rien à dire. Si c'est moi qui le suis, laissez passer la crise. Lorsque l'un de nous deux hisse le signal du danger, l'autre se tient sur ses gardes. Que pensez-vous de cela? Je pense que vous êtes le plus drôle de vieux type que... Êtes-vous de mon avis? Oui, mon chéri, naturellement, j'approuve. Article 1er, dit Frank qui se mit à griffonner sur son papier. À votre tour maintenant. Non, mon chéri, je n'ai réfléchi à rien. Eh bien alors, voici un autre point. Ne jamais croire l'un de l'autre que cela va de soi. Que voulez-vous dire par là? Ne jamais se dispenser de ces attentions qu'un amoureux éprouve pour l'autre. Certains maris paraissent oublier que leurs femmes sont des dames. Certaines femmes parlent à leur mari avec moins de politesse, moins de considération que s'il s'agissait du premier visiteur venu. On n'a pas la moindre mauvaise intention, mais on entre dans la voie du laisser-aller. Il ne faut pas que nous fassions ainsi. Je ne crois pas que nous en arrivions là. On y arrive sans qu'on s'en aperçoive. Donnez-moi une bonne secousse au premier indice. Oui, monsieur, je le ferai. Le point que j'ai remarqué ensuite n'est que la conséquence développée du dernier. Que chacun de nous fasse effort pour mériter l'amour de l'autre. On finit par se montrer en négligé, en savate. On dirait que cela n'a pas d'importance maintenant qu'on est marié. Si chacun se montrait fort attentif à plaire à l'autre, il n'agirait pas ainsi. Que de femmes négligent leur musique après le mariage. « Mon Dieu, et moi qui suis restée 8 jours sans m'exercer !» s'écria Maud. Et leur toilette et leur coiffure. Maud porta vivement la main à ses frisons. « Mais vous savez avec quelle facilité une femme devient insouciante. Il m'aimera quand même, se dit-elle, et peut-être a-t-elle raison, mais enfin, elle n'est pas ce qu'elle devrait être. « Ah, mais Franck, je ne me doutais pas que vous en saviez aussi long. » J'ai entendu mes amis parler de ce qu'ils avaient éprouvé, et le mari aussi doit tenir compte des sentiments de sa femme comme de ceux de sa fiancée. Si elle n'aime pas la fumée, il ne doit pas fumer. Il ne doit pas bâiller devant elle. Il doit se tenir bien astiqué, bien attrayant. Regardez cette manchette sale, je ne devrais pas la voir. Et si cela ne fait aucune différence pour moi? Eh bien voilà, voici ce qui est démoralisant. Vous devez viser au point de perfection le plus haut. Lorsque je venais vous voir à Saint-Alban, je n'avais pas de manchette sale. Pardonnez-moi ma musique, Franck, et je vous pardonnerai la manchette. Mais j'admets tout ce que vous dites. Je le trouve si sage, si bon. Mais j'aurais quelque chose à ajouter. Bon, qu'est-ce que c'est? Chacun devrait s'intéresser à la tâche de l'autre. Naturellement, on le devrait. Mais on ne le fait pas. Pourtant, ma chère, vous vous intéressez à mon travail de la cité. Oui, monsieur, mais vous intéressez-vous de près aux soins de mon ménage? Peut-être ai-je été un peu insouciant. Non, mon chéri, vous n'en avez pas été. Vous vous êtes montré plein d'égards. Mais j'ai remarqué cela à propos de maman et aussi à propos d'autres. À la fin de la semaine ou du mois, le mari tire son carnet de chèques et il dit « Ah, c'est bien plus que ce que nous pouvons nous permettre. » Ou bien « C'est moins que je n'avais compté, mais jamais il ne prend un véritable intérêt aux efforts que fait sa femme pour bien marcher avec peu d'argent. Il ne voit pas les choses du même œil qu'elle. Il ne cherche pas à se rendre compte des difficultés qu'elle rencontre. Oh, je voudrais pouvoir m'exprimer mieux, mais je sais que l'intérêt est tout d'un côté. Je trouve parfaitement juste ce que vous dites. Je tâcherai de m'en souvenir. Inscrivons-nous cela sur notre liste? L'intérêt doit être réciproque. C'est parfait, je le note. Y a-t-il encore d'autres points? C'est votre tour. Eh bien, en voici un, et je sens que celui-là, c'est ce qu'il y a de plus sacré dans le mariage, ce qui en est la plus grande justification, que l'amour ne doit jamais dégénérer en mollesse, que chacun doit se faire une tâche consciente de stimuler ce qu'il y a de meilleur dans l'autre, de combattre ce qu'il y a de mauvais, qu'il doit y avoir dans notre vie de la discipline, que chacun de nous doit pousser l'autre, le faire monter vers un idéal plus haut. L'amour qui dit « Je sais que c'est mal, mais je l'aime tant, lui ou elle, que je ne puis refuser, est une sorte d'amour bien pitoyable pour le train-train de la vie conjugale. Le respect de soi-même, qui refuse de laisser déchoir même d'un pouce l'idéal le plus élevé de l'amour, est chose bien plus noble et qui résiste bien plus à l'usure. Comment allez-vous exprimer cela? Le respect mutuel est nécessaire pour l'amour mutuel. Oui, je suis sûre que c'est bien cela. On dirait que cela va de soi, mais l'intensité même de l'amour rend l'amour faible et aveugle. Mais j'ai un autre point sur lequel je suis certaine de ne pas avoir votre adhésion. Voyons, dites. Je l'ai rendu sous cette forme, la corde tendue est celle qui se casse le plus facilement. Que voulez-vous dire ? Eh bien, je veux dire que les deux époux doivent se laisser l'un à l'autre une certaine latitude, une certaine liberté. S'ils ne le font pas, l'un ou l'autre finira, tôt ou tard, par s'aigrir de la contrainte. Ainsi le veut la nature humaine, chose plus ancienne et plus vénérable que le mariage. Je ne trouve pas du tout cela, mon gré, Franck. C'est ce que je craignais, ma chérie, mais je crois que vous l'admettrez comme moi quand je vous aurai expliqué ce que je veux dire. Si vous ne l'admettez pas, eh bien, il faudra que je tâche de voir la chose comme vous. Lorsqu'on parle de liberté dans la vie conjugale, en règle générale, il ne s'agit que de la liberté du mari. Il fait ce qui lui plaît, mais il n'en prétend pas moins contrôler rigoureusement sa femme. C'est mal, j'en suis sûr. Pour prendre un exemple frappant de ce que je veux dire, un mari a-t-il le droit de lire les lettres de sa femme ? Non, certainement, pas plus qu'elle n'a le droit de lire les siennes sans qu'il le permette. Croire que c'est un droit évident, ce serait tirer trop fort sur la chaîne. La chaîne ! Quel affreux mot, Franck ! Bah, ce n'est qu'une métaphore. Ou bien supposer qu'il s'agisse d'amitié. Un mari doit-il renoncer à toute amitié, à toute intimité avec une autre femme ? Maud parut indécise. « Je tiendrai d'abord à voir la femme, » dit-elle. « Ou bien, une femme mariée doit-elle s'interdire de se lier avec un homme dont la société l'intéresserait ou la rendrait plus parfaite ? Le soutenir, c'est montrer bien peu de confiance mutuelle. Les gens qui sont sûrs l'un de l'autre doivent s'accorder réciproquement la plus grande liberté sur ce point. S'ils ne le font pas, ils tirent encore trop fort sur la corde. » S'ils le font, ils la laissent se relâcher tellement qu'ils pourraient tout aussi bien ne point y en avoir. Je pressentais que nous aurions à discuter sur ce sujet. Mais j'ai vu des exemples. Regardez les Wardrops. Ce couple-là ne se quittait jamais. Ils se faisaient gloire de n'avoir rien qui ne leur fût commun. Lorsqu'il n'était pas chez lui, elle ouvrait ses lettres, il ouvrait les siennes. Et alors est arrivée une rupture terrible. La corde tendue s'était cassée. Maintenant, je crois que pour certaines gens, c'est chose tout à fait excellente que de prendre leurs vacances à des époques différentes. Oh, Franck ! Oui, je le crois. Pas pour nous, non, par Jupiter. En ce moment, je fais des généralités. Mais pour certains couples, je suis sûr que c'est bon. Ils se passent mutuellement en revue, à distance, et ils ne s'en aiment que mieux. Oui, mais ces règles sont faites pour notre conduite et non pour celle d'autrui. C'est parfaitement juste, ma chérie. J'avais déraillé, comme qui dirait, pour m'exprimer comme notre frère. Mais j'ai peur de ne pas arriver à vous convaincre sur ce point. Maud prit un air de révolte qui lui allait fort bien. Non, Franck, vous n'y arriverez pas. Je ne crois pas que le mariage puisse être trop intime. Je crois que tout espoir, toute pensée, toute aspiration doivent se partager. Jamais je ne pourrais être aussi près de votre cœur, de votre âme, que je voudrais l'être. Je désire que chaque année ajoute à notre intimité et que nous en venions, autant que la chose est possible, sur terre, à ne plus former qu'une seule personne. Quand vous êtes réduits à capituler, il vaut mieux le faire avec grâce. Franck se pencha, baisa la main de sa femme et s'excusa. « La sagesse du cœur est plus grande que celle du cerveau, » dit-il. « Mais l'amour de l'homme est un amour cérébral bien plus que celui de la femme. C'est pourquoi il y aura toujours quelques points qu'ils n'envisageront pas d'une façon tout à fait pareille. » « Alors, effaçons cet article. » « Non, ma chérie, la corde qu'on tient tendue est celle qui se brise le plus facilement. » Ce sera très bien. La corde dont je parle ne se tient pas du tout tendue. Du moment où il devient nécessaire de la tirer, elle n'est plus bonne à rien. Il faut que cela soit volontaire, naturel, inévitable. Aussi, Franck rectifia-t-il son aphorisme. Y a-t-il autre chose encore, ma chère ? Oui, j'ai pensé à autre chose, dit-elle. C'est que, quand vous me trouverez en faute, en quelque circonstance que ce soit, vous ne le fassiez que quand nous serons seuls. Et il en sera de même quand il s'agira de moi. C'est excellent, cela. Peut-on concevoir rien de plus vulgaire, de plus humiliant, que d'être en désaccord en public ? Il y a des gens qui parfois le font pour plaisanter, mais c'est un tort quand même. Voilà qui est dûment noté en original. Autre chose encore ?
Rien que des détails matériels.
Oui, mais ils doivent compter aussi. Maintenant, en affaire d'argent, je trouve que le mari doit accorder à sa femme une certaine somme annuelle qui lui est payée à elle et qu'elle garde, de façon à pouvoir en disposer comme elle l'entend. Il est humiliant pour une femme d'être obligée de s'adresser à son mari chaque fois qu'elle a besoin d'un souverain. D'autre part, si la femme a quelque argent à elle, il vaut mieux qu'elle soit libre d'en disposer. Si elle juge à propos de l'employer à faire marcher la maison, c'est fort bien, mais je suis convaincue qu'elle doit avoir son compte personnel et le libre emploi de ce qui lui revient.
Si une femme aime réellement un homme, Franck, comment pourra-t-elle se montrer avare avec lui de ce qu'elle a ?
Si mon revenu peut vous ôter un seul souci, quelle joie ce serait pour moi de voir que vous en faites usage.
Oui, mais le mari doit se rappeler sa dignité personnelle. Dans une grande crise, il pourrait avoir recours à sa femme, puisque nos intérêts sont les mêmes, mais il n'y aurait aucune autre excuse. Voilà pour l'argent de la femme. Maintenant, la question de la tenue du ménage.
Cette terrible question. Elle n'est si pénible que parce qu'on tâche de faire beaucoup avec peu de choses. Pourquoi s'assujettir à un tel effort ? Les meilleurs plaisirs de l'existence sont des choses qui ne coûtent rien. La lecture, la musique, des soirées passées dans l'intimité, la promenade sur la lande, le charmant train-train de la vie domestique, mon cricket et mon golf, tout cela coûte fort peu.
Mais il vous faut manger et boire, Franck. Puis il y a Gemina et la cuisinière. C'est vraiment extraordinaire ce qu'elle consomme.
Mais il y a une tendance à faire des repas beaucoup trop compliqués.
Pourquoi un second plat de légumes ?
Ah, nous y voilà. Je savais que vous trouveriez à redire à ce pauvre légume. Il coûte si peu.
En moyenne, je crois qu'il revient à 3 pence par jour.
Allons, avouez que c'est ça. Savez-vous combien 3 pence par jour font au bout d'un an ? Ce ne serait pas la peine d'avoir épousé un comptable si vous ne trouviez pas le chiffre sans peine. Cela fait 4 livres, 11 shillings et 3 pence.
Cela me paraît beaucoup.
Mais pour cet argent, et moins encore, vous pouvez devenir membre de la Bibliothèque de Londres avec le droit de prendre 15 volumes à la fois et de puiser dans la littérature de l'univers entier. Représentez-vous cela. D'un côté, tous les livres de l'univers, toutes les paroles des hommes sages, des grands hommes, des gens d'esprit, et de l'autre côté, le choix entre des choux-fleurs, des courges à moelle et des petits pois. Quel est le meilleur marché ?
Grand Dieu, nous renoncerons pour toujours au second légume.
Et le pudding ?
Mon cher, vous en mangez toujours du pudding.
Oui, je le sais, cela me paraît tout naturel quand j'ai du pudding devant moi. Mais s'il n'y en avait pas, je n'en mangerais pas et cela me serait égal, et je sais que ça vous est aussi égal. Voilà encore 5 ou 6 livres par an.
Faisons un compromis, mon cher. Second légume un jour, pudding le lendemain.
Très bien. Je remarque que c'est toujours après avoir fait un repas substantiel que vous discutez sur l'économie à propos de la table. Je me demande si vous serez encore de cet avis quand vous reviendrez de la cité, affamé, demain.
Maintenant, monsieur, y a-t-il d'autres économies ?
Je ne crois pas que l'argent fasse le bonheur, mais les dettes vous rendent malheureux. Aussi devons-nous retrancher toute dépense inutile jusqu'à ce que nous ayons un fonds de réserve pour parer à toute exigence inattendue. Si vous voyez une économie que je puisse faire ou une dépense que vous trouviez injustifiable de ma part, je désire que vous me le disiez. Au temps où j'étais célibataire, je me montrais fort insouciant.
Ce costume rouge pour le golf.
Je sais, ce fut idiot de ma part.
Cela ne fait rien, mon cher. Vous êtes très chic avec ce costume-là.
Après tout, il n'a coûté que 30 shillings.
Pouvez-vous citer une extravagance à ma charge ?
Eh bien, ma chère, j'ai jeté hier un coup d'œil sur la note de la couturière.
Oh, Franck, quel joli costume ! Et vous avez dit qu'il vous plaisait. Une bonne coupe se paie.
Vous avez dit vous-même qu'une femme ne doit pas avoir l'air fagotée après son mariage, et cela aurait coûté le double à Regent Street. Ce n'est pas du costume que je parlais, ma chère.
De quoi alors ?
De la doublure de soie pour la jupe.
Ah, petit farceur !
Cela m'a coûté 30 shillings de plus. Eh bien, qu'est-ce que cela peut faire, qu'elle soit doublée de soie ou non ?
Oh, qu'est-ce que ça fait ? Essayez-en une et vous verrez.
Mais personne ne peut savoir si elle est doublée de soie.
Quand j'entre dans une chambre en faisant froufrou, mon cher, toutes les femmes savent que ma jupe est doublée de soie.
Frank sentit qu'il s'était risqué dans un endroit où il n'avait pas pied. Aussi regagna-t-il au plus tôt la terre ferme.
Il n'y a qu'une économie qui ne me paraisse pas justifiable, dit-il, ce serait de rogner sur vos souscriptions aux œuvres de bienfaisance. Cette façon de faire le bien revient à si bon marché. Ce n'est pas que je fasse beaucoup dans cette direction, peut-être trop peu, mais dire que parce que nous avons besoin de faire des économies, de pauvres gens doivent en souffrir, c'est un pitoyable raisonnement. C'est à nos dépens qu'il nous faut faire des économies.
Alors Frank, en homme méthodique, condensa toutes ses conclusions en forme de tableau sur sa feuille de grand format. Ce n'était pas un travail fort brillant, mais il pouvait servir de carte aux petits esquives à deux rameurs en attendant quelque chose de mieux. Il était ainsi conçu. Maxime pour les gens mariés. Premièrement, puisque vous voilà mariés, il faut bien que vous vous en accommodiez le mieux possible. Deuxièmement, dès lors, faites-vous quelques maximes et tâchez d'y conformer votre vie. Troisièmement, et ne vous découragez pas en cas d'insuccès. Vous échouerez, mais peut-être n'échouerez-vous pas toujours. Quatrièmement, ne soyez jamais boudeurs au même moment. Cinquièmement, ne cessez jamais d'être amoureux. Si vous cessez, quelque autre commencera peut-être. Sixièmement, vous étiez gentleman et lady avant d'être mariés. Ne l'oubliez pas. Septièmement, ayez la meilleure tenue possible. C'est un compliment pour votre conjoint. Huitièmement, visez un idéal élevé. Vous le manquerez peut-être, mais il est préférable de manquer celui qui est en haut que d'atteindre celui qui est en bas. Neuvièmement, un amour aveugle est un amour de sot. Encouragez ce qu'il y a de mieux dans vos natures respectives. Dixièmement, un constant respect mutuel est nécessaire pour que l'amour mutuel soit durable. Une femme peut aimer sans éprouver de respect, un homme ne le peut pas.
Onzièmement,
la corde comptant est celle qui se casse le plus facilement. Douzièmement, qu'il n'y ait qu'une loi pour tous les deux. Treizièmement, il n'y a qu'une chose qui soit en public, pire que les disputes, ce sont les caresses. Quatorzièmement, l'argent n'est pas essentiel pour le bonheur, mais d'ordinaire, les gens heureux n'en manquent pas. Quinzièmement, ainsi donc, faites quelques économies. Seizièmement, la meilleure façon d'épargner consiste à se passer des choses. Dix-septièmement, si vous n'en êtes pas capable, il est préférable de ne pas prendre femme. Dix-huitièmement, l'homme qui respecte sa femme ne fait pas d'elle une mendiante. Donc, donnez-lui sa bourse personnelle. Dix-neuvièmement, si vous économisez, faites-le à vos dépens. Vingtièmement, dans toutes les affaires d'argent, tenez-vous prêt au pire et espérez pour le mieux. Tel était le plan que ce jeune couple ambitieux put se tracer. Peut-être l'expérience les amènera-t-elle à le corriger, à l'améliorer par la pratique, mais il est assez sûr pour nous diriger au large.